France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis que Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine, notre système solaire ne compte que 8 planètes. Mais peut-être qu'une 9e se cacherait aux confins de notre système, l'hypothétique planète 9. Où en sommes-nous dans cette traque ? Depuis 10 ans, cette hypothèse enflamme les imaginaires. Aussi appelée planète X, elle serait la 5e plus grosse planète du système solaire, située sur une orbite très lointaine, bien au-delà de Neptune, et ferait le tour du Soleil en 20 000 ans. Elle expliquerait les trajectoires inhabituelles et la configuration de certains objets transneptuniens. Une décennie plus tard, nous ne l'avons toujours pas débusquée. Si tant est qu'elle existe, où et comment la chasser ? Si elle n'existe pas, que nous apprend cette controverse de la méthode scientifique ? Quoi de neuf sur la planète 9 ? Alessandro Morbidelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théoricien, dynamicien du système solaire, professeur au Collège de France. Nous sommes en ligne également avec Jean-Marc Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théoricien, dynamicien et observateur du système solaire, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Besançon. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources, c'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi la planète X est-elle une arlésienne de l'astrophysique ? Pourquoi la découvrir serait important ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment l'existence de l'hypothétique planète 9 a-t-elle été soulevée ? C'est notre archive du jour.
Bien au-delà de la Terre, loin, très loin du Soleil, au-delà de Neptune et de ce que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes de Kuiper, les astronomes américains ont observé un comportement étonnant. À plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil, la trajectoire d'un grand nombre d'astéroïdes semble se dessiner autour d'un autre objet que le Soleil. À grand renfort de calculs informatiques, ils viennent de détecter, ici en jaune, l'orbite de ce qui pourrait être une 9e planète. Cette 9e planète existe-t-elle vraiment ? Sans l'avoir observée, on ne peut pas encore l'affirmer. Les probabilités donnent plus de 99 chances sur 100. Il y a plus de 150 ans, dans les mêmes circonstances, l'astronome français Urbain Le Verrier, grâce à des calculs mathématiques, découvrait la 8e planète, Neptune.
Voilà un extrait de l'émission Grand Soir 3 sur France 3 le 20 janvier 2016. Alessandro Morbidelli, que vous inspire cette archive ?
Ah, c'est un retour aux sources, un retour en arrière, hein, c'est presque 10 ans. Ben oui, c'est le début d'une longue aventure. On cherche toujours, la planète n'a toujours pas été détectée. On connaît plus d'objets distants, donc certains confirment qu'il y a une anomalie orbitale dans les systèmes solaires externes, certains semblent indiquer le contraire, donc le débat est plein ouvert. La grosse nouveauté est qu'on a maintenant un nouveau télescope, le télescope Vera Rubin, qui va commencer à traquer, à observer tout le ciel de façon très régulière. Et on pense que cet observatoire va compléter le recensement des objets distants et donc confirmer ou infirmer qu'il y a effectivement une anomalie expliquée par une planète.
Voilà, et pour tout comprendre et tout connaître de cet observatoire, le Vera Rubin, je vous invite à podcaster notre épisode Vera Rubin, Vera plus loin. Mais je voudrais votre écoute, vous aussi, Jean-Marc Petit. Quel commentaire sur cette archive ?
Ben, comme disait Alessandro, oui, c'est un retour en arrière. C'était très intéressant. Bon, il y avait un côté un petit peu, comment dire, scoop pour montrer un truc. Bon, comme on l'a pu le voir, depuis 10 ans, on cherche. On n'est pas encore d'accord sur la possibilité qu'effectivement ça existe ou pas. Vera Rubin devrait nous apporter une bonne pierre à l'édifice, parce qu'effectivement il va avoir un relevé qui va observer l'ensemble du ciel, une bonne partie de l'ensemble du ciel, contrairement aux observations actuelles qui sont plutôt dédiées dans certaines zones. Mais bon, on verra bien ce que ça va nous donner. Hein. Voilà.
Alors pour comprendre en tout cas l'histoire de cette traque qui dure depuis bientôt 10 ans, Alessandro Morbidelli, faut peut-être revenir sur plusieurs découvertes qui sont à l'origine de la formulation de cette hypothèse. Et on l'entendait dans cette archive, on évoquait la ceinture de Kuiper. Ça, c'est une découverte qui a été faite en 92. C'est situé au-delà de l'orbite de Neptune. Quelle est justement l'importance de cette ceinture dans l'histoire de l'hypothèse de la planète 9?
Oui, bien sûr, elle est capitale. Donc, la ceinture de Kuiper a une population de petits corps, un peu analogue à la ceinture des astéroïdes, mais la ceinture des astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter, la ceinture de Kuiper se trouve au-delà de Neptune. Cette ceinture avait été hypothisée parce que on reçoit des comètes qui viennent du système solaire externe, donc il fallait un réservoir, une source de ces objets, mais elle n'avait jamais été observée. Jusqu'en 1992, le seul objet plus loin de Neptune qu'on connaissait, c'était Pluton. Pluton fut découvert en 1930, c'était une sorte d'exception de son statut planète. Mais à partir de 1992, plusieurs objets au-delà de Neptune ont été découverts. C'était vraiment la ceinture de Kuiper, assez différente de celle qu'on avait imaginée auparavant, ce qui a montré que l'exceptionnalité de Pluton n'existait pas, en fait, que Pluton était un objet parmi d'autres, certes un des plus gros, mais même pas le plus gros. Alors, cette ceinture est très intéressante parce qu'on se trouve au-delà des planètes. Donc, on devrait retrouver là les vestiges du disque protoplanétaire à partir duquel tous les objets du système solaire se sont formés. Et la grande surprise a été que, en fait, la ceinture de Kuiper est très élaborée, elle est très compliquée. Donc, elle a subi des perturbations très fortes par les planètes connues lors de leur formation, évolution, et peut-être aussi par une hypothétique planète dont on va parler. Donc, il y a plusieurs composantes dans cette ceinture. Il y a une ceinture qu'on appelle plutôt classique, donc elle est faite d'objets qui ont des orbites à peu près circulaires au-delà de Neptune, entre 40 et 45 unités astronomiques, et l'unité astronomique la distance Terre-Soleil, Neptune a 30 unités astronomiques, donc on se trouve bien une fois et demie la distance de Neptune du Soleil. Mais après, au-delà, on a des objets qui ont des orbites très allongées, très elliptiques, donc ils passent à peu près proche de l'orbite de Neptune au périhélie, au point le plus proche du Soleil, mais ils peuvent aller très très loin à l'aphélie, plusieurs centaines, voire des milliers d'unités astronomiques. Et c'est cela qui nous révèle qu'il y a peut-être un perturbateur extérieur dans cette hypothétique planète 9 dont on va parler.
Alors ce perturbateur extérieur, cette hypothétique planète 9, Jean-Marc Petit, à quoi ressemblerait cette planète? On va revenir évidemment sur les conditions de formulation de cette hypothèse, mais déjà, quel est ce monde?
A priori, dans les hypothèses qui sont avancées à l'heure actuelle, c'est une planète qui est un petit peu une géante de glace, comme nous avons Uranus ou Neptune, qui sont des planètes assez grosses. Donc, les hypothèses tablent sur une dizaine de fois la masse de la Terre. Donc, ils seront entourés effectivement d'un nuage de gaz, mais très, très lourd, beaucoup plus lourd que ce qu'on a sur Terre. Ça serait plutôt comme on a Uranus ou Neptune, quoi, des géantes de glace. Mais le fait est qu'elle est extrêmement loin, donc dans un endroit encore plus froid, si c'est possible, que ne l'est la zone où orbitent Uranus et Neptune. Voilà, alors après, savoir ce qu'il y a dedans, si elle est d'origine, elle a été formée en même temps que les autres planètes dans le système solaire, elle devrait avoir des compositions analogues à celles que l'on peut trouver sur Neptune, par exemple, ou Uranus. Si pour une raison X ou Y, c'est une capture d'une autre étoile dans les phases initiales, à ce moment-là, elle pourrait avoir des compositions un peu différentes. Là, c'est des hypothèses très osé, quoi, je dirais. Voilà.
Alessandro Morbidelli, voilà pour la taille, son hypothétique composition. On peut peut-être aussi décrire son étrange orbite.
Oui, voilà, parce que l'anomalie qu'on observe dans les systèmes solaires, que ces objets qui ont des orbites très elliptiques, si on prend les sous-ensembles des objets qui, au périhélie, ne passent pas très proche de Neptune, donc ne sont pas fortement perturbés par Neptune, mais on s'aperçoit que ces orbites ont toutes la même orientation dans l'espace. Et ça, c'est bizarre parce que les orbites ne restent pas fixes dans l'espace. Elles tournent autour du Soleil, un mouvement qu'on appelle le mouvement des précessions. Et donc, à cause de ces précessions, même si initialement les orbites étaient pour une raison X, Y, toutes orientées dans la même direction, elles devraient s'éparpiller sur l'âge du système solaire et prendre en fait toutes les directions possibles. Or, on observe que les objets majoritairement ont une direction privilégiée. Donc, il faut quelque chose, si c'est vrai, si c'est pas dû à des biais observationnels ou simplement à la statistique des petits nombres, c'est dont on va discuter, parce que c'est ça la vraie question scientifique, mais si c'est vrai, ben forcément, il faut quelque chose, il faut une force qui bloque la précession de ces objets, les empêche d'être en précession, ou alors d'être tous en précession au même taux. Et cette perturbation ne peut être qu'une planète. Bon, il y a eu d'autres hypothèses avancées, mais sont beaucoup plus compliquées qu'une simple planète. Donc, cette planète, on peut essayer de la caractériser son orbite. Donc, on dirait que c'est plutôt une planète de l'ordre de 5 masses terrestres sur une orbite qui aurait un demi-grand axe de presque 1000 unités astronomiques, une période, comme vous avez dit, de 20 à 30 000 ans, sur une orbite plutôt inclinée, 20-30 degrés, avec une certaine orientation qui permet de verrouiller la précession des objets observés. Évidemment, ce sont des estimations pas très précises, donc on a des probabilités de distribution. En fait, les pics des probabilités de distribution en fait, tombent sur une orbite qui est exclue, parce que si la planète était sur une telle orbite, on verrait ces perturbations sous les mouvements de Saturne, qu'on connaît pertinemment bien, parce que la sonde Cassini a tourné autour de Saturne pendant 12 ans, et nous a permis donc de caractériser la position de Saturne avec la précision d'1 mètre, c'est incroyable, sur une période de 12 ans. Eh bien, on ne voit pas d'anomalie gravitationnelle sur Saturne. Donc, il faut que cette planète, c'est les travaux d'Agnès Fienga et Jacques Lascar et d'autres collaborateurs, à eux, ont montré que la planète, aujourd'hui, ne peut pas être plus près que 600 unités astronomiques du Soleil. Autrement, on aurait détecté ces perturbations sur Saturne.
En tout cas, les anomalies gravitationnelles que l'on croit observer, ils sont parmi les objets les plus lointains dans le système solaire. On les appelle les OTNE, pour les objets transneptuniens extrêmes. Première découverte en 2003 avec Sedna. Jean-Marc Petit, ce sont ces objets-là, 13 objets transneptuniens extrêmes, qui permettent aux trackers de Planète 9, les trackers c'est Brown et Batygin, c'est ces objets-là qui permettent justement la formulation de cette hypothèse.
Oui, parce que, comme le disait Alessandro, ces objets-là, ils n'ont aucune raison d'être orientés dans la même façon dans le ciel, dans l'espace. Et il se trouve que les 13 objets en question ont une direction privilégiée de l'orientation de leur demi-grand axe, donc de leur passage au péricentre, ou donc au plus proche du Soleil ou à la aphélie. Et donc, le fait qu'il y ait ça, alors que ce sont des objets qui devraient tourner éventuellement, s'il n'y a pas de planète, devraient tourner autour, enfin, dans leur orientation devrait tourner à des taux différents d'une planète à l'autre, enfin, d'un astéroïde à l'autre, on devrait ne pas avoir d'orientation. Alors après, c'est là où intervient ce que commençait à indiquer Alessandro, c'est le problème des biais observationnels. C'est que on observe un ensemble relativement restreint d'objets, on les observe, tout cela a été observé depuis le sol, avec un nombre de télescopes relativement réduit et qui ont tous les mêmes conditions générales d'observation. Donc en fait, si on les regarde, on va s'apercevoir qu'ils vont être observés préférentiellement à telle époque dans l'année, des choses comme ça. Ce qui fait que ça laisse planer un doute sur des possibles biais observationnels. Alors un biais observationnel pour les auditeurs, si vous vous mettez dans votre rue et vous essayez de dire « tiens, je vais essayer de déterminer quel est l'ensemble des voitures » ou des véhicules qui existent, qui roulent en France par exemple, et vous vous mettez dans votre rue et vous regardez ce qui passe dans votre rue. Vous allez avoir une représentation très restreinte de ce qui existe réellement, du nombre de véhicules et du type de véhicules que vous pouvez avoir en France. Parce que vous allez voir, si vous êtes en ville, vous ne verrez peut-être pas passer de camions, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de 4x4, vous verrez peut-être, suivant dans quelle ville vous habitez, si vous habitez à Genève, vous avez des chances d'avoir beaucoup de voitures de luxe. Si vous habitez dans un village retiré, vous verrez peut-être plus des voitures un peu plus vieilles et puis prévues pour aller se balader en forêt. Vous voyez, la façon dont on observe et l'endroit d'où on observe va influencer sur ce que vous voyez. Et c'est exactement ce qui se passe pour ces objets-là. On est là, on voit des choses. Alors après, on peut essayer de comprendre comment on a fait nos observations et essayer de voir si on peut, en quelque sorte, inverser ces biais observationnels pour dire, bon, ben ouais, on a vu ça, mais peut-être qu'on a raté, on sait que préférentiellement on va rater certaines choses et puis voir préférentiellement d'autres. Donc essayer d'inverser ce phénomène. mais c'est pas évident. Il y a deux études qui ont été faites, une par l'équipe dans laquelle je participe et une autre par une autre équipe sur avec un autre télescope et une autre caméra, où on a essayé de vraiment bien comprendre tous les biais observationnels. Et quand on fait ce travail-là, on n'a plus besoin, on en vient à la conclusion que il est tout à fait possible d'avoir les observations que l'on a, même si au départ, les objets sont distribués uniformément, c'est-à-dire dans toutes les directions. Alors, avec une faible probabilité, mais c'est possible. Contrairement à ce que Batygin et Brand a affirmé, disant que oui, bah, si on a cette orientation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fiable, parce qu'ils n'ont pas pris en compte les biais observationnels.
Voilà. Justement, comment s'est construite cette controverse scientifique? Quels sont les arguments contre? On continue d'en discuter dans quelques instants.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Alessandro Morbidelli et Jean-Marc Petit, nous parlons de l'hypothèse de la planète 9. On vient de voir qu'une poignée d'objets du système solaire externe semble avoir d'étranges orbites. Des orbites que l'on parvient à expliquer lorsqu'on ajoute une force cachée pour les guider gravitationnellement. Cette force cachée pourrait être une neuvième planète, encore inconnue jusqu'alors. Alors, Alessandro Morbidelli, pourquoi ne l'avons-nous ? On vient d'évoquer très rapidement ces biais observationnels également, mais pourquoi nous ne l'avons pas encore trouvé, cette neuvième planète?
C'est pas très étonnant qu'on n'ait pas trouvé la planète, même si elle existe, parce que comme je disais, elle peut pas être aujourd'hui plus près que 600 unités astronomiques, donc elle doit être plutôt vers l'aphélie de son orbite.
Elle est trop loin.
C'est pas étonnant, parce qu'un objet passe plus de temps à l'aphélie qu'au périhélie. La planète n'est pas énorme, on parle de 5 masses terrestres, donc on peut estimer quelle est sa luminosité dans les ciels, encore un peu à la louche, parce qu'on ne sait pas très bien son atmosphère, ses nuages, etc. Mais sa magnitude, donc sa brillance, serait dès lors de la magnitude absolue 24. Hein. Ça ne peut dire rien à beaucoup de monde, mais c'est à la limite de ce que les télescopes peuvent voir. En fait, les télescopes peuvent voir n'importe quel objet, même très très faible, pourvu qu'il fasse une pause très longue, comme avec nos appareils photo. Si on veut voir des objets très sombres, il faut faire des pauses très longues. Mais pour faire des pauses très longues, il faut du temps et il faut savoir où l'objet se trouve. Donc, si on ne sait pas très bien où l'objet se trouve, il faut regarder un peu partout dans les ciels. Donc, on ne peut pas s'attarder sur chaque morceau de ciel pendant très longtemps pour faire des pauses très très longues. Donc, ces surveys qui peuvent couvrir une grande quantité de ciel, forcément sont assez limités en magnitude. Et donc, voilà, ça peut avoir échappé. En plus, si la planète est à l'aphélie aujourd'hui, on a 600 unités astronomiques, elle se déplace dans les ciels très lentement. Elle aurait dû donc pu apparaître comme une étoile fixe. Donc, elle pourrait même exister déjà sur des clichés, mais jamais été détectée comme un objet mobile. Alors, l'histoire nous enseigne, ça arrive. Galilée avait vu Uranus en regardant Saturne. Et il a pris pour une étoile fixe, il a même écrit sur son papier « étoile fixe ». Et bon, voilà, l'histoire a découvert après Uranus des siècles plus tard. Voilà, quand les objets se déplacent lentement, c'est très difficile de détecter leur déplacement. Maintenant, l'observatoire Vera Rubin a été conçu, la stratégie observationnelle a été conçue de façon de pouvoir détecter des objets qui se déplacent très lentement. Donc, Vera Rubin pourrait détecter la planète, mais peut-être pas. Elle pourrait même s'échapper à Vera Rubin. Mais Vera Rubin permettra de résoudre tous ces problèmes des bio-observationnels, des statistiques des petits nombres dont on a commencé à discuter, en découvrant davantage d'objets avec une stratégie solide et rigoureuse pour lesquelles les bio-observationnels sont parfaitement modélisables.
C'est ça, Jean-Marc Petit, c'est que là, cette planète 9, on est capable de trouver des milliers d'exoplanètes situées en dehors du système solaire. Si on y arrive, c'est parce qu'on sait exactement où regarder, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire de cette planète X.
Oui, effectivement, les exoplanètes, en fait, on cherche autour des étoiles. Donc, on va regarder ce qui se passe sur les étoiles et on va découvrir qu'il y a quelque chose. Ici, en fait, la planète, elle peut se trouver n'importe où autour du Soleil. Alors, comme le disait Alessandro, on a une idée du type d'orbite qu'elle peut avoir. Donc, on sait dans quelle région regarder, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de moyen de préciser à quel endroit exactement sur l'orbite elle devrait se trouver. Si on arrive à si on savait, par exemple, où est son péricentre, son apocentre, donc son aphélie, on pourrait effectivement pointer le télescope dans cette direction-là et on aurait peut-être réduit la surface à explorer. Mais là, en fait, on devrait étudier quasiment viser dans toutes les directions autour du Soleil. Et c'est là que ça pose un problème. Comme je le disais, c'est une question de surface à se couvrir. Et on a un certain temps limite, on peut pas y passer un temps trop long à chaque fois. Et en plus, il faut effectivement être capable de détecter qu'il y a un mouvement, donc être capable de revenir sur le même endroit pour faire une autre photo, pour voir que un objet s'est déplacé alors que le reste est au même endroit. Bon, c'est un petit peu compliqué. Si l'objet est très lent et qu'on le regarde à des intervalles trop courts, on ne va pas voir le mouvement, donc on va dire oh ben c'est une étoile fixe. Si on attend trop, il va être trop déplacé, on ne va pas être capable de le relier à la précédente image. Enfin, il y a tout ce genre de choses qui est un petit peu problématique. Et ça demanderait un relevé spécifique si on voulait vraiment le trouver à coup sûr. Maintenant, comme on l'a dit, Vera Rubin va observer une fraction non négligeable de tout le ciel. Si on a la chance que la planète en question soit en ce moment plutôt dans la partie sud de notre ciel, et pourrait être vue par Vera Rubin. Si par malheur la planète se trouve plutôt dans le nord, là, on ne pourra pas le voir puisque le Vera Rubin ne va pas trop monter vers le nord. Il va aller faire principalement l'hémisphère sud. Donc, oui. Et puis, alors, si par hasard il se trouve que en ce moment la planète est dans la direction de la Voie lactée, là, on est complètement saturé par les étoiles et on a beaucoup de mal à voir un petit point extrêmement faible de magnitude 24. Donc, c'est quelque chose de très très faible qui se déplace au milieu d'étoiles. Donc, on est toujours dans la brillance d'une étoile et on ne peut pas les voir.
On peut être ébloui par une étoile en arrière-plan.
Par les étoiles.
Mais alors, par rapport justement aux arguments contre, parmi les astronomes qui ne croient pas à l'existence de cette planète neuve, on a ceux donc qui disent, on vient d'en parler, hein, qu'il y a des biais observationnels et que donc l'alignement observé n'existe pas réellement, Alessandro Morbidelli.
Oui, ça c'est la seule alternative. Donc, s'il y a alignement orbital, comme je dis, il faut qu'il... Il y a planète, et je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais la question véritable, est-ce que cet alignement orbital est réel ou pas? Donc ça peut être dû à une statistique de petits nombres, vous l'avez dit, c'est 13 objets qui sont en jeu, etc. Et au biais observationnel, ces objets sont découverts quand ils passent au périhélie. Si les observateurs regardent plutôt dans une direction du ciel, ben forcément tous les objets qu'on observe au périhélie seront dans cette portion du ciel. Alors, différents groupes ont essayé d'évaluer ces biais observationnels en obtenant des résultats différents. Donc, les groupes de Jean-Marc Petit, les groupes de Dark Energy Survey, se sont basés sur leur propre survey et les quelques objets qu'ils ont découverts. Effectivement, c'est des surveys qui regardent dans des directions privilégiées, donc introduisent des fortes biais. Mais ces ETNO ont été découverts dans une panoplie de surveys, certaines très différentes. Et, par exemple, Mike Brown, qui est un grand observateur aussi, a essayé d'évaluer les biais avec une méthode à lui, et il a trouvé que oui, les biais, ce ne sont pas très forts. Et on peut aussi se dire, s'il y avait des très forts biais, ces biais devraient exister pour toute catégorie d'objets. Or, on peut prendre la catégorie des objets qui ont aussi des orbites très elliptiques, mais eux, ils passent très près de Neptune. Donc, ils sont très fortement perturbés par Neptune, donc ils ne devraient pas avoir un alignement préférentiel, devraient être uniformément éparpillés dans les ciels. S'il y avait des biais observationnels très forts, même ces objets-là apparaîtraient dans la même direction du ciel. Or, quand on regarde leurs orbites, sont bien éparpillés partout. Donc, selon Mike Brown, ça c'est la preuve que les biais observationnels existent, mais ça ne peut pas être l'explication entière du processus. Et on l'a entendu Jean-Marc dire, oui, les biais observationnels permettraient, avec une faible probabilité, de dire que, même si on voit un alignement orbital, en réalité, la distribution réelle est uniforme. Donc, on ne peut pas l'exclure. Je pense que c'est là le débat. Hein. On ne peut pas décider aujourd'hui qui a raison et qui a tort. On est en science, ce n'est pas une question d'opinion. Chacun apporte ses calculs, chacun fait ce qu'il peut. La situation est compliquée parce que, justement, on n'a pas un observatoire qui a fait des observations avec une stratégie très rigoureuse et documentée, sauf les surveys de Jean-Marc Petit et son collègue Brett Gladman au Canada, mais qu'eux n'ont pas découvert beaucoup d'objets de ce type. On a découvert beaucoup d'objets d'autres catégories. Donc, il faut vraiment attendre ce fameux observatoire Vera Rubin pour arrêter cet argument dans un sens comme dans l'autre. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord.
C'est qu'en fait, il n'y a que, pour trancher le débat, il n'y a que l'observatoire Vera Rubin et plus de données, plus d'observations, Jean-Marc Petit.
Absolument, la solution, c'est là, en espérant qu'on arrive effectivement à détecter un grand nombre, en multipliant par un facteur 10 le nombre d'objets transneptuniens extrêmes, ça résoudra toute la problématique. Alors, par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la controverse porte plus sur le fait que l'on soit obligé ou pas de faire appel à une planète neuve que sur le fait qu'on croit ou pas, parce que comme le disait Alessandro, ce n'est pas une question d'opinion, que la planète neuve existe ou pas. Personnellement et avec mes collègues, finalement, on serait bien content qu'une planète neuve existe parce que ça pourrait expliquer d'autres petits problèmes que l'on a pour expliquer certains objets, voilà. Mais voilà, nous on essaie d'être rigoureux à partir de nos observations, de dire ok, est-ce que nos observations elles nous indiquent qu'il faut quelque chose ou pas. Et pour l'instant, on n'arrive pas à être à ce niveau-là de certitude. C'est tout.
Oui, mais
donc on
ne
va pas dire il y a une planète neuve parce que on pourrait s'en passer, mais dès qu'on pourra plus s'en passer, on sera très content de l'avoir.
Et justement, Alessandro Morbidelli, que pourrait justifier, expliquer la planète neuve comme autre anomalie observée?
Voilà, la planète neuve, donc on a étudié tous ses effets possibles sur tous les objets du système solaire. Elle peut expliquer d'autres bizarreries qu'on observait dans les systèmes solaires. Il y a des objets dont l'orbite est perpendiculaire aux orbites des planètes. Elle croise l'orbite des planètes géantes avec une orbite perpendiculaire à celle des planètes géantes elles-mêmes. Alors, ces objets-là pourraient venir du nuage de Oort, c'est un autre réservoir des comètes, très loin, encore plus loin de l'hypothétique planète neuve. Lui, il se trouve à 20 000 unités astronomiques. C'est un réservoir en forme de sphère, donc les objets arrivent de toutes les directions, y compris sur des orbites rétrogrades. Mais selon certains calculs, voilà, les nuages de Oort ne devraient pas être une source suffisante d'objets observés. Les objets qu'on observe sont relativement gros et assez nombreux, donc effectivement, on pourrait y en avoir trop, ce qui nécessite une autre source. D'ailleurs, les premiers ont été découverts par l'équipe de Jean-Marc Petit. Et la planète neuve, à cause de ses perturbations, dévie beaucoup les orbites des TNO extrêmes et peut envoyer certains sur ces orbites perpendiculaires. Bon, ça, c'est une possibilité. Une autre observation, c'est un travail que nous avons fait, Marc, Constantin Batygin, moi-même et David Nesvorny, sur la distribution des distances périhéliques des objets sur orbite elliptique. Et nous avons montré que sans la planète neuve, la plupart de ces orbites ont une distance périhélique de l'ordre de la distance de Neptune au Soleil, 30 unités astronomiques, mais avec la planète neuve, il devrait y avoir beaucoup d'objets qui ont des distances périhéliques plus petites et croisent l'orbite de Neptune. Or, ces objets sont bien observés. Et nous avons montré que la distribution observée est beaucoup mieux reproduite si on prend en compte une hypothétique planète neuve que si on ne la prend pas en compte. Mais là aussi, il y a une question des bioobservationnels, qui sont plus facilement modélisables que les bioobservationnels pour les TNO extrêmes, mais bon, ils sont quand même là, donc nous avons fait les mieux que nous pouvions. Et bon, le futur dira.
Donc, j'aime bien les et si. Si le futur observatoire Vera Rubin ne trouve rien, pas de planète neuve, pas d'alignement orbital, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir expliquer toutes ces anomalies qu'on observe, Alessandro Morbidelli.
Oui, c'est ça. Donc, si Vera Rubin montre que il n'y a pas d'anomalie dans la direction des orbites des TNO extrêmes, bon, il n'y a pas vraiment raison d'invoquer l'existence d'une planète. Mais du coup, comment s'expliquent les autres orbites avec périhélie, petit périhélie ou inclinaison de 90 degrés? Il faudra revoir un peu notre modèle du système solaire, du nuage de Oort, d'évolution de ces objets pour expliquer précisément toutes les caractéristiques observées.
Et à l'inverse, s'il y a vraiment un alignement orbital, ça ne peut s'expliquer que par la planète neuve, pas par autre chose, il n'y a pas d'autres hypothèses plus probables.
Il y a des hypothèses, mais elles sont vraiment un peu...
farfelues.
Un peu farfelues. Par exemple, une hypothèse qui est mini-trou noir. Mais finalement, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est un perturbateur ponctuel. on peut l'appeler planète, on peut l'appeler mini-trou noir. En mini-trou noir, 5 masses terrestres, on ne sait même pas s'il existe, il n'a jamais été observé, donc pourquoi aller chercher compliqué quand l'hypothèse de la planète est relativement simple. On peut aussi s'imaginer qu'il y a un anneau de matière très dense. Mais bon, là aussi, vous croyerez un anneau de matière très loin, avec certaines caractéristiques. La planète, finalement, n'est pas si... L'existence d'une planète n'est pas une idée si folle que ça. Quand les planètes géantes se sont formées, sans doute, il y avait plusieurs planètes qui essayaient de se former. Et du coup, elles étaient trop nombreuses. Et il faut les planètes qui grandissent davantage vont se faire la place. Qu'est-ce qu'elles font? Vont éjecter les planètes qui sont un peu plus petites. Et ces planètes qui sont éjectées sont perturbées par les étoiles qui, à l'époque, sont relativement proches du Soleil parce que les étoiles se forment dans des amas. Avec un collègue brésilien, un professeur au Texas, nous avons montré que dans un système, dans nos simulations de formation des planètes géantes, on éjecte plusieurs planètes. Chaque planète éjectée a une probabilité d'environ 10% d'être capturée sous une orbite comme celle de la planète 9. On en éjecte 2 ou 3. Donc finalement, la probabilité qu'il y ait une planète comme la planète 9 est de l'ordre des 30% pour les systèmes solaires. C'est trop faible pour dire qu'il doit y en avoir une, parce que c'est 30%, pas 100%, mais c'est quand même une probabilité relativement élevée. Donc s'il y a la découverte de la planète 9, on ne sera pas particulièrement surpris. Ce sera simplement la démonstration que la formation planétaire est un processus chaotique et violent, où certaines planètes se forment et d'autres, malheureusement c'est la loi du plus fort, sont éjectés.
Et ça, vous êtes en train justement de commencer à nous décrire votre modèle, le modèle de Nice, scénario que vous avez développé en 2005 à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Que nous raconte ce scénario? Restez avec nous. New Planet is Born de Music Oi en direct sur France Culture, car nous parlons de l'hypothétique planète 9 en compagnie de nos deux invités du jour. Alessandro Morbidelli, théoricien dynamicien du système solaire, professeur au Collège de France, et Jean-Marc Petit, théoricien dynamicien et observateur du système solaire, directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Besançon. On vient de voir qu'en 2016, le duo Batygin et Brown annonce avoir découvert le signe de l'influence gravitationnelle de cette planète 9 sur les orbites d'objets transneptuniens. Alessandro Morbidelli, prédire l'existence d'une planète avant de l'observer, ce ne serait pas la première fois que ça arriverait. C'est le cas de Neptune.
Bien sûr. Donc Neptune fut prédit par Les Verriers et Adams en Angleterre, indépendamment, en observant des anomalies dans les mouvements d'Uranus. Donc c'était le 18e siècle. Alors on peut se demander, mais comment c'est possible qu'au 18e siècle, en faisant des calculs à la main, Les Verriers a su prédire la position de Neptune au point de dire à un observateur, le gars, regarde là, il va y avoir une planète. Et effectivement, la planète fut découverte quelques jours après. Et nous, aujourd'hui, 3 siècles plus tard, avec tous les ordinateurs qu'on a, on ne sait toujours pas dire où est la planète 9. Alors, ce n'est pas notre faute, c'est la nature. La perturbation observée du mouvement d'Uranus dépend pas seulement de l'orbite sur laquelle Neptune se trouve, mais aussi d'où se trouve Neptune sur son orbite. Et donc, on peut calculer où les regarder dans les ciels, moyennant quelques suppositions, que les orbites soient coplanaires, etc. Mais les perturbations exercées par la planète 9 qu'on détecte dans ces fameux alignements orbitaux, elle dépend seulement de la forme de l'orbite de la planète et pas d'où se trouve la planète sous son orbite. C'est ce qu'on appelle des perturbations séculaires. Et donc, nous n'avons aucune information d'où se trouve la planète sous son orbite, à part le fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas plus près que 600 unités astronomiques, comme l'a montré Agnès Pienga. Donc, on a une grosse incertitude d'où regarder, et vu que la planète est très faible, elle se déplace lentement, donc c'est très difficile de la détecter. Malheureusement, ça n'a pas encore été le cas.
En tout cas, est-ce que, autre chose dont on peut revenir, enfin, on peut revenir ensemble là-dessus, Jean-Marc Petit, sur cette hypothétique planète neuve, c'est que les alignements qu'on croit donc observer seraient faits, en fait, d'une planète neuve, d'une cinquième planète géante, mais ce seraient les traces du passé qui auraient eu lieu il y a 4 milliards d'années.
Oui, effectivement, ben, comme on le disait précédemment, le système solaire s'est pas formé juste avec 4 planètes géantes, 4 planètes telluriques et puis rien autour avec quelques petits corps. En fait, il y a énormément de matière, on crée des planètes et puis, ben, comme on l'a dit, les planètes, c'est la première qui grossit le plus vite et puis elle essaie de prendre la matière aux autres et puis les autres ont grossi plus ou moins et puis à un moment donné, il n'y a plus de place, on en éjecte. Et donc les modèles à l'heure actuelle qui prédisent qu'effectivement il y a eu l'éjection d'au moins une planète, peut-être plusieurs, chacune, bon, ben, à ce moment-là, avec une certaine probabilité de se retrouver sur des orbites type planète neuve, si effectivement à ce moment-là la densité d'étoiles aux alentours du Soleil était encore assez élevée. Mais on a d'autres indices aussi qui laissent supposer que cette idée d'éjecter une planète peut être vu sur d'autres effets. Par exemple, si on regarde la ceinture de Kuiper, ce qu'on appelle la ceinture classique froide, c'est-à-dire les objets qui sont formés dans le plan du système solaire, à l'endroit où ils sont, c'est-à-dire entre 40 et 50 unités astronomiques à l'heure actuelle, là, c'est une certaine catégorie d'objets qui, a priori, se sont formés là. On voit des surdensités dans l'espace des phases, c'est-à-dire localement, si on regarde dans le ciel, on verra pas une surdensité, mais dans l'espace des phases, dans l'espace des demi-grands axes, excentricité, comme ça, et inclinaison, on voit une surdensité et qui peut être expliquée si l'orbite de Neptune a subi une évolution brutale à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle s'est pas, Neptune n'a pas sauté d'un endroit à un autre, mais son demi-grand axe, la forme de son orbite a brutalement changé un petit peu à un moment donné. Et ça s'explique très bien si vous éjectez une planète. Il y a une interaction entre Uranus, Neptune et cette cinquième planète. Et puis, à un moment donné, la cinquième planète est éjectée. Dans cet effet-là, Neptune a un changement assez brutal de son orbite et ça va laisser une marque dans la ceinture de Kuiper que l'on pourrait voir à l'heure actuelle. Voilà, ça fait partie des choses que l'on arrive à imaginer. En se basant sur les mouvements tels qu'on les connaît, basés sur les lois de la gravitation connues, quoi.
Ça me fait penser à cette citation que j'aime bien de vous, Alessandro Morbidelli. Les théoriciens sont des archéologues du cosmos, les planétologues sont des archéologues du système solaire. Et c'est ce que vous montrez dans le modèle de Nice en 2005. C'est que pendant longtemps, on a cru que les planètes restaient sagement à l'endroit de leur formation et qu'en réalité, on sait aujourd'hui qu'une planète grandit, plus elle grandit, plus elle migre facilement. Et vous décrivez ce jeu de billard cosmique.
Oui, les planètes...
Jeu de billard planétaire, pour être plus précis.
C'est une ancienne légende que les planètes se forment sur leur orbite, qu'on n'avait pas d'autres indices. Bon, voilà, il faut toujours supposer simple, hein, c'est le principe du rasoir d'Occam. Mais aujourd'hui, on sait que les planètes géantes se forment dans un disque protoplanétaire de gaz, qui interagissent avec ces disques, ce qui les amène à se déplacer, à migrer, comme on dit. Elles migrent aussi les unes par rapport aux autres, jusqu'à quand ils se verrouillent sur ce qu'on appelle une chaîne de résonance, où chaque planète a une période orbitale qui a un rapport de nombre entier avec les planètes voisines. Or, ces orbites sont très différentes des orbites que les planètes ont aujourd'hui. Donc, les modèles de Nice montrent que la disparition du gaz, après avoir accumulé un peu de perturbations, les planètes deviennent instables, leur orbite change soudainement. Et c'est ainsi qu'on peut reconstruire les orbites actuelles des planètes géantes avec leur petite excentricité, leur petite inclinaison, et aussi expliquer les structures observées dans la ceinture de Kuiper, notamment ces fameux amas, les kernels, qui ont été découverts observationnellement par Jean-Marc Petit et son équipe. Qui est vraiment témoin de ce saut orbital de Neptune, donc qui est la preuve d'une phase de chaos, d'instabilité, comme celle décrite par les modèles de Nice, qui explique aussi la capture de satellites irréguliers autour des planètes géantes, la capture des Troyens autour de Neptune, sur l'orbite de Neptune et l'orbite de Jupiter, la formation du nuage de Oort, et ainsi de suite. La planète 9, quand même, devrait pas trop venir du modèle de Nice, parce que je pense que quand l'instabilité des planètes géantes s'est matérialisée, les soleils n'étaient plus dans un amas stellaire. Or, il faut un amas stellaire pour capturer la planète 9 sur une orbite d'un millier d'unités astronomiques. Mais si on avait été dans un amas stellaire au moment de la formation au moment de l'instabilité décrite par les modèles de Nice, on n'aurait pas formé les nuages de Oort. Donc, à mon avis, il s'agit d'un processus à deux étapes. L'éjection de la planète 9 aurait lieu pendant les mécanismes de croissance des planètes géantes, notamment d'Uranus et Neptune. Donc on est encore dans une phase très précoce, dans un disque protoplanétaire, et le Soleil est encore dans un amas stellaire. Et les modèles de Nice, par contre, décrivent ce qui se passe plus tard, une fois que le Soleil est sorti de son amas, et le disque protoplanétaire de gaz a disparu. Donc on est fait sur deux étapes pour expliquer la structure actuelle du système solaire externe.
On continue de s'intéresser à notre système solaire et à ses confins, et notamment aux objets transneptuniens, avec le reportage du jour. Alors peut-être qu'un jour, nous découvrirons cette fameuse planète 9. Mais en attendant, l'analyse des objets transneptuniens qui ont permis de mettre cette hypothèse sur la table nous aide à mieux comprendre l'histoire de notre système solaire, et leur étude fait progresser l'astrophysique. On continue d'en parler avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Un grand nombre d'objets au-delà de Neptune ont probablement des anneaux, comme ceux de Saturne ou d'Uranus. Et vous êtes allé voir comment on explique ces anneaux à l'Observatoire de Paris.
Oui, on en connaît déjà au moins 3 de ces petits corps célestes qui ont des anneaux. Mais il y a des raisons de penser qu'il y en aurait beaucoup plus. Si on extrapole à partir de ce qu'on sait, il pourrait y en avoir des centaines même. Ces objets de la ceinture de Kuiper nous informent sur la formation du système solaire grâce à leur glace primordiale ou à leur trajectoire qui est héritée de cette formation. Mais il nous rappelle aussi que notre imagination est limitée. Car si cette découverte que les petits corps peuvent avoir des anneaux a été une surprise, c'est tout simplement qu'aucun astronome n'avait étudié la question auparavant. C'est ce que me racontait Bruno Sicardi, qui est professeur émérite à Sorbonne Université et au laboratoire Temps et Espace de l'Observatoire de Paris. Et maintenant que nous avons observé ces anneaux, il est l'heure de les étudier. C'est ce que fait cet astrophysicien à l'aide de simulations numériques.
Ces anneaux se trouvent autour de petits corps. Il y a un qui s'appelle Chariclo, qui est entre Uranus et Saturne. Et on pense qu'il vient de la région transneptunienne. Donc il a été perturbé par les planètes géantes. Et actuellement, il est relativement proche. Et en revanche, on a vu des corps beaucoup plus loin, c'est-à-dire Haumea et Coahuar, qui sont bien au-delà de la position actuelle de Pluton.
On les a sous les yeux, ces corps-là. Est-ce que vous pourriez les décrire ?
Je vous montre. Alors, donc, Chariclo est un petit corps d'à peu près 250 km de diamètre, donc c'est une sorte de gros astéroïde, si on peut dire, qui est entouré d'un anneau assez dense, enfin de deux anneaux dont l'un est assez dense. Haumea, c'est une sorte de cigare, qui est quasiment aussi gros que Pluton, le long de sa taille maximale en tout cas, qui est entouré également d'un anneau.
Ces objets sont trop petits dans le ciel pour qu'on puisse en faire des images directes, même avec des télescopes très puissants. Alors on les observe indirectement, en regardant comment ils éclipsent certaines étoiles plus lointaines lorsqu'ils passent devant. C'est ce qu'on appelle la technique des occultations stellaires. C'est elle qui a permis de détecter les anneaux. Ce qui s'est passé, c'est que lors de certaines observations, on a remarqué que la lumière de l'étoile diminuait juste avant et juste après le passage de l'objet transneptunien. Comme si elle passait dans un brouillard. Et le seul moyen d'expliquer cela, c'est d'imaginer des anneaux autour de ces corps.
On n'a pas énormément d'observations d'occultation, ça concerne peut-être une vingtaine de corps pour lesquels on a pu observer de telles occultations, et on a déjà 3 et probablement un 4e actuellement, corps entouré d'anneaux.
Donc, comment s'appelle le 4e ?
Chiron, c'est un corps qui ressemble à Chariclo, qui orbite également au milieu des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus. Et qui, lui, a des anneaux, mais qui semblent apparaître, à disparaître, qui ne sont pas permanents, quoi qu'il en soit. Il y a du matériau sous forme d'anneaux. Et donc, c'est-à-dire, si on a 4 anneaux sur une vingtaine de corps observés via les occultations stellaires, c'est une statistique très haute. Ça, ça veut dire qu'on peut avoir
20... Ça veut dire que sur les milliers de corps qu'on connaît, transneptuniens, il y en a peut-être énormément qui ont des anneaux.
Il y a plusieurs milliers qui sont connus actuellement, donc ça veut dire qu'il peut y avoir, s'il y a quelques années, lorsqu'on aura utilisé des occultations stellaires pour beaucoup de corps, on connaîtra beaucoup plus d'anneaux autour de ces corps qu'autour des planètes géantes. Donc ça va devenir, si vous voulez, la règle autour de ces corps, et les planètes géantes deviendront des exceptions, les quatre exceptions autour des planètes géantes. Donc il y a des mécanismes communs en particulier. Il se trouve que ces trois anneaux confirmés, plus le quatrième aussi, mais disons ce qu'on a vraiment étudié pour l'instant, Kawar, Haumea et Chariklo, ils orbitent de telle manière qu'une particule de l'anneau fait un tour autour du corps central lorsque le corps central lui-même fait trois tours. Donc c'est ce qu'on appelle une résonance 1 sur 3. Le fait que sur les trois anneaux étudiés pour l'instant, les trois soient cette résonance 1 sur 3, ça veut dire que c'est soit un hasard, soit la nature de nouveau est en train d'essayer de nous dire quelque chose.
Pour qu'il y ait une résonance, dans notre cas le fait que les particules de ces anneaux tournent trois fois moins vite que le corps central, il faut que l'objet céleste soit dissymétrique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas parfaitement sphérique avec une masse répartie uniformément, mais plutôt qu'il ait par endroits des protubérances. Pour mieux comprendre ces anneaux, Bruno Sicardi et ses collègues ont fait des simulations. Ils prennent une sphère qui fait à peu près la masse d'un objet transneptunien et ils ajoutent une immense montagne dessus. C'est cette fameuse protubérance qui va créer des perturbations gravitationnelles et peut entraîner une résonance. Enfin, ils mettent des milliers de petites particules autour de ce corps, puis ils regardent ce qui se passe à mesure que ces dernières tournent autour de l'objet.
Donc il y a 40 000 particules qui sont en excentricité nulle.
Donc c'est 40 000 tout petits points là.
C'est 40 000 particules de 25 mètres de diamètre, de rayons, qui sont en train de rentrer en collision les unes avec les autres. Et donc ces collisions ont tendance à étaler le système. C'est ce qui s'est passé, là c'est pris 80 ans après le début de la simulation, donc l'anneau s'est étalé, et on pensait que l'étalement allait continuer, et qu'il n'allait rien se passer en fait. Mais à un moment donné, la résonance commence à agir, donc il faut plusieurs dizaines d'années, et à ce moment-là on voit que la résonance va exciter l'excentricité des particules, et surtout ramasser tout le matériau qui se disperse sur 10-20 km autour de la résonance.
Donc, petit à petit, il se concentre au niveau de...
Petit à petit, la résonance va ramasser, si on peut dire, toutes ces particules étalées, et un petit peu comme si on avait un balai, si vous voulez. Donc, on balaye les particules extérieures vers l'intérieur, les particules intérieures vers l'extérieur, et on fait que finalement...
Et tout se retrouve au même endroit, c'est ce qui forme l'anneau.
L'anneau dense qui va se confiner, ça s'appelle un confinement, qui va se confiner là où se trouve la résonance. Et ce qui était surprenant, ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait que l'inverse se produirait, à savoir que les collisions feraient que les particules s'échappent dans toutes les directions, vers l'extérieur, vers l'intérieur, et qu'on détruirait cet anneau.
La suite de ces travaux, ce serait, j'imagine, d'aller détecter de nouveaux anneaux sur objets transneptuniens.
On a des programmes d'observation, on les prépare, on organise des campagnes d'observation, dans lesquelles d'ailleurs participent pas mal d'amateurs. En fait, on met plusieurs observateurs à différents endroits, et chaque observateur observe la disparition de l'étoile à des moments différents, et on reconstitue ensuite ce qui s'est passé. Et donc... Parfois, il y a plus d'amateurs qui participent que de professionnels. Parce que les professionnels, ils ont des gros télescopes, mais il n'y a pas énormément de gros télescopes dans le monde. Il y a quelques années, on a observé une occultation par un corps qui s'appelle MS4. Bon, il y a eu quelques observatoires professionnels assez gros, comme le Pic du Midi ou d'autres observatoires en Italie. Mais le gros des troupes, c'était des amateurs chez eux ou qui ont voyagé quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres avec leur petit télescope. Donc là, la majorité des résultats qu'on a eus a été obtenu par des amateurs.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour écouter la science en train de se fabriquer. C'est notre collection La Science au Labo sur votre application préférée, l'appli Radio France bien sûr. Jean-Marc Petit, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oui, c'est effectivement une des choses intéressantes qui est apparue récemment, c'est cette histoire des anneaux autour de petits corps. Moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse en 1985 sur les anneaux de Saturne. Donc oui, à l'époque, on pensait les anneaux, ben, il y en a autour de Saturne, on avait commencé à découvrir qu'il pouvait y en avoir aussi autour de Jupiter, plus ou moins épais, plus ou moins visibles. Voilà, mais on n'avait pas du tout imaginé qu'il puisse exister des choses pareilles autour de petits corps. Et là, on les voit, quoi, et c'est vraiment extraordinaire. Alors après, bon, Sicardi laissait supposer qu'il pouvait y en avoir, si effectivement, pour l'instant, on a une statistique de 3 ou 4 sur une vingtaine d'objets qui ont pu être observés par aucune station stellaire, donc ça fait une fraction non négligeable de 20%, c'est bien. Est-ce que c'est représentatif de ce qui pourrait se passer à toutes les tailles? Ça, c'est une autre question. Est-ce que quand les objets deviennent très petits, est-ce qu'ils sont encore capables d'avoir un anneau et de le préserver? Ça, c'est autre chose, hein, parce qu'il faudrait déjà se poser la question de d'où viennent ces particules qui sont mises en rotation autour de l'objet. Est-ce que c'est le résultat d'un impact sur l'objet lui-même, sur Chariclo, par exemple? Il y a eu un impact, des particules ont été éjectées, elles ont commencé à tourner autour, et puis après, avec le mécanisme décrit par Bruno Sicardi, elles se focalisent dans la résonance 3.1. Mm. Très bien. Ça, c'est OK, mais est-ce que ça peut être valable sur les plus petits corps? Après, on a, à contrario, si vous avez un plus gros corps qui est parfaitement sphérique, comme il le disait, il n'y aura plus de résonance, donc on n'aura pas la possibilité de les capturer. Par exemple, pour Haumea, c'est très bien parce que lui, il est allongé, c'est un cigare, donc là, il a vraiment une forme dissymétrique qui lui permet de générer cette résonance. Parce que les mécanismes de confinement autour des planètes comme Saturne, c'est des satellites qui sont autour. Et là, on n'en a pas à disposition, pas forcément à disposition.
Je reviens sur les résonances orbitales de nos objets transneptuniens et sur l'hypothèse de la planète 9, Alessandro Morbidelli, on arrive à la fin de cette discussion. Mais finalement, découvrir la planète 9, qu'est-ce que ça changerait? Finalement, ça bousculerait pas tant que ça notre compréhension du système solaire et de sa formation?
Oui, c'est ça. En fait, ça serait une grande satisfaction. Hein. On va compléter un peu notre connaissance empirique du système. Donc, c'est évidemment très satisfaisant. Les planètes, bon, ça serait un événement historique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas si surprenant que ça. Ce serait simplement la preuve que les planètes, quand elles se forment, tendent à être nombreuses, tendent à se faire la place, tendent à s'éjecter mutuellement. Donc, une vision assez dynamique, chaotique, un peu violente de la formation planétaire. Et du coup, bon, comme celle que nous produisons dans nos modèles. Mais, et du coup, ce serait la preuve de cela, parce qu'il y a aussi d'autres théories où les planètes grandissent de façon isolée, en accrétant seulement des poussières, à s'entrant interagir avec les autres. Donc, au début, il y aurait 8 protoplanètes qui accrètent des poussières pour devenir 8 planètes à la fin. Mais voilà, donc la planète 9 nous permettra d'étrancher aussi ce débat.
Et vous, à vos yeux, les arguments en faveur de l'existence d'une 9e planète sont-ils convaincants?
Comme je disais, on ne peut pas trancher à l'heure actuelle. On est des scientifiques, c'est de la science, c'est pas de l'opinion. Donc, il est absolument vrai, comme l'a dit Jean-Marc Petit, que entre bioobservationnel, mar modélisé et statistique des petits nombres, il y a une possibilité non nulle que ce qu'on voit est simplement apparent et pas réel. Et donc, là, il n'y a pas de raison d'invoquer une planète neuve. Il faudra plus d'observations pour trancher, pour être d'accord. En science, à la fin, on est tous d'accord. Une fois qu'il y a suffisamment de preuves scientifiques apportées. Mon sentiment est que les indications pour que la planète existe sont un peu plus fortes que les indications qu'il n'y a rien à voir circuler, il n'y a rien à expliquer. Mais j'admets que je pourrais me tromper à l'heure actuelle avec les données à disposition.
Voilà, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo et on attendra donc les résultats de ce fameux télescope, l'observatoire Vera Rubin, qui devrait découvrir entre 10 et 40 000 objets transneptuniens pour peut-être trancher ce débat. Merci à vous deux. Tout de suite, on quitte les profondeurs de notre système solaire pour les profondeurs océaniques, direction les sources hydrothermales, avec la chronique Avec Science.
comment la chaleur des sources hydrothermales permet de prédire les éruptions sous-marines. Tout se passe au niveau des dorsales océaniques. C'est la plus grande chaîne de montagnes volcaniques au monde, à environ 2500 mètres de profondeur, s'étend une immense crête sous-marine, une frontière mouvante entre les plaques tectoniques. Peu à peu, ces plaques s'éloignent l'une de l'autre et ce mouvement crée un vide que le magma qui remonte des profondeurs vient combler. En se refroidissant, il donne naissance à une nouvelle croûte océanique. C'est dans ces zones d'activité intense où la Terre libère sa chaleur que les chercheurs observent le volcanisme sous-marin. Thibaut Barrère est chercheur CNRS au laboratoire Géocéan à Brest et à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le Massachusetts.
À cet endroit-là, on a une croûte qui est très fine. Donc c'est vraiment l'endroit où on est le plus au contact, d'une certaine manière, du manteau terrestre. Et donc on a les échanges de chaleur entre la Terre profonde et les enveloppes superficielles les plus importantes. L'extraction de cette chaleur terrestre, elle se fait de manière très efficace au niveau des systèmes hydrothermaux, de ces sources chaudes, qui vont, d'une certaine manière, transporter la chaleur de ces chambres magmatiques à travers la croûte jusqu'au plancher océanique. Donc c'est de l'eau de mer en fait qui va percoler, qui va s'introduire par les fractures de la croûte et au contact du magma va se réchauffer. Cette eau qui est très chaude, hein, 390 degrés, va se refroidir drastiquement au contact de l'eau de mer qui est très froide à 2 degrés et va précipiter en des structures qu'on appelle cheminées hydrothermales ou monts hydrothermaux.
Ces sources hydrothermales sont en quelque sorte des radiateurs de la Terre. Elles permettent d'extraire la chaleur des profondeurs vers le plancher océanique, mais ce n'est pas tout. Elles abritent aussi une vie surprenante, des microbes qui n'ont pas besoin de lumière, qui respirent des composés chimiques issus du lessivage de la croûte océanique. C'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Dans cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS, les scientifiques ont voulu étudier si les variations de température de ces sources chaudes pouvaient révéler ce qu'il se passe sous la croûte. Pour aller prendre la température des profondeurs, il faut soit y envoyer un robot, soit ne pas être trop claustrophobe et embarquer dans un tout petit sous-marin habité. Des capteurs de température sont ainsi déployés sur des sources hydrothermales. Ensuite, les scientifiques repartent à la surface et l'année suivante, il faut revenir pour collecter les données. C'est ainsi que cette nouvelle étude a pu analyser 35 ans de température le long de la dorsale océanique du Pacifique. C'est la mieux connue et la plus dynamique de toutes les dorsale. Et résultat, il y a un cycle. La température monte progressivement jusqu'à une éruption sous-marine massive.
On s'est aperçu qu'il y avait une corrélation assez surprenante entre la variation des températures de ces sources hydrothermales et le timing des éruptions volcaniques. On montre qu'il y a des variations de température, une augmentation de température d'à peu près 30 degrés, donc on partirait de 360 degrés, quand même un flux très chaud, et on monterait jusqu'à 390 degrés avant une éruption, tout ça sur une échelle de temps de 10 ans. Donc une augmentation de 30 degrés sur 10 ans, qui précède une éruption volcanique. Ensuite, on observe cette éruption volcanique à la surface, puis les températures diminuent drastiquement pour revenir au niveau de base, voire un peu en dessous, donc sur les 350 degrés. Donc ça se passe sur 2 ou 3 ans. Ensuite, quand on réenclenche un cycle de montée de température, encore sur des échelles de temps de la dizaine à la quinzaine d'années, jusqu'à une nouvelle éruption. Donc c'est cette cyclicité-là entre l'augmentation de température et la diminution de température corrélée à ces éruptions volcaniques qu'on a étudiées. Et ce qui nous a permis, en comprenant la mécanique du système, de prédire ou d'avancer une date pour l'éruption prochaine, donc c'était celle de 2025, qui a eu lieu en avril dernier.
Ce cycle a permis aux scientifiques de prédire une éruption qui a eu lieu à plus de 2500 mètres sous la surface du Pacifique. Preuve que la compréhension du processus est solide. La suite de cette étude franco-américaine devait porter sur l'analyse post-éruption, avec des données plus fines pour voir comment les systèmes se réinitialisent en quelque sorte et si le même cycle se produit ailleurs. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'administration Trump a coupé les budgets de la recherche. L'étude proposée n'aura donc pas lieu, du moins pas tout de suite, faute de financement. Alors, les scientifiques se contentent de ce qu'ils ont. Ils vont éplucher les données disponibles, les comparer à d'autres dorsales pour comprendre si ce mécanisme pourrait être universel sous l'eau comme sur Terre.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Timothée Hubert. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.